Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
Ma tante nous a invités le soir pour finir la journée à dîner chez eux. Et tout se passait très très bien. Ben, à un moment donné, mon cousin s'est retourné contre mon mari et lui a donné un coup de couteau au niveau du cœur.
Il est mort, votre mari ?
Oui.
Marie-Hélène, vous avez été prévenue comment de ce qui était arrivé à votre fils ?
Carole nous a appelés.
Je ne savais pas comment leur dire.
Vous avez senti que c'était fini pour votre fils ?
Mais bon, on a l'amour de nos petites filles, de Carole, et on est restés unis.
On m'a encouragée à révéler que j'avais été violée par mon oncle de l'âge de 13 à 18 ans.
Alors j'avais 11 ans, on était chez mes parents dans ma chambre et puis il m'a avoué avoir eu une relation sexuelle avec notre oncle. Et si j'avais su parler, enfin, même sans comprendre ce qui se passait, si au moins j'avais pas tenu cette promesse de dire je dirais rien.
C'est fou cette culpabilité que vous portez sur vos épaules.
On refait le film de ce que l'on a vécu, tout le monde est coupable. Tout le monde se sent coupable. Mais c'est parce que vous savez... Au moment où ça se passe, vous ne saviez pas.
J'essaie de leur expliquer que le seul coupable est en prison et que c'est pas à eux de culpabiliser. Mais je pense que s'en voudront toujours, malheureusement.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel inédit de Ça commence aujourd'hui. Ils ont connu les vacances entre cousins, les rires, les chamailleries, les déjeuners animés, les grandes tablées pour les fêtes de fin d'année. Ils étaient une famille unie et sans histoire, jusqu'à ce que tout vole en éclats, jusqu'à ce que l'un d'entre eux ne commette l'irréparable. Ils vont nous raconter ce moment qui a fait tout basculer et qui les a menés tout droit vers une cour de justice. Bienvenue à nos invités et bienvenue à vous dans Ça commence aujourd'hui. Les invités dont je vais prendre soin aujourd'hui. Bonjour Carole.
Bonjour Faustine.
Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Justine.
Bonjour.
Et bonjour Jenny. Merci pour votre confiance puisque je sais qu'avec vous, on va revenir sur des moments douloureux de votre vie. Merci encore une fois. Je vous présente Florian Ferreri et Marc Gégère qui vont nous accompagner aujourd'hui. Vous les connaissez bien et je pense que leur éclairage est plus que jamais nécessaire. Carole, c'est un banal repas de famille où votre vie a basculé. C'était le 21 février 2015. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?
Mon mari a passé la journée chez mon oncle et ma tante à faire des travaux pour un agrandissement de maison.
Oui.
Et du coup, ma tante nous a invités le soir pour finir la journée à dîner chez eux. Donc, on était une quinzaine de personnes et tout se passait très, très bien. Dans la joie, la bonne humeur, comme à l'habitude. Et à un moment donné, mon cousin s'est retourné contre mon mari et lui a donné un coup de couteau au niveau du cœur.
Il est mort, votre mari ?
Oui.
Les secours n'ont pas pu le sauver ?
Non.
Il s'appelle David, votre mari ?
C'est ça.
Et donc, c'est votre fils, Marie-Hélène et Marc.
Voilà.
Oui.
Est-ce que vous me diriez quelques mots de lui ? C'est une façon de se souvenir de lui, de lui rendre hommage. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous me dites un mot sur David. Quel genre d'homme était-il ?
C'était un homme courageux. Oui. Très courageux, qui aimait rendre service.
Oui.
Voilà. Qui aimait plaisanter. Voilà.
C'était travailleur. Et il avait... bien réussi dans son métier, qu'il avait fait par l'apprentissage et il avait eu plusieurs récompenses en tant qu'apprenti. Donc,
la fierté de papa. Hein.
Oui, et il avait créé cette entreprise qu'il a pu parce qu'il voulait être son propre chef et former d'autres apprentis aussi. Parce qu'il disait, si jamais on ne forme pas d'apprentis, on n'en aura jamais pour... C'était son but.
Il avait quel âge au moment de sa disparition, David ?
36 ans.
Et on va voir que rien n'aurait pu présager de ce qui s'est passé. Absolument rien. Une famille soudée, unie, comme il en existe des millions. On va faire connaissance justement avec votre famille à travers ces images que vous nous avez confiées.
Carole grandit dans une famille très unie.
Toujours entourée, elle passe de nombreux moments en compagnie, entre autres, de ses cousins et cousines avec qui elle part régulièrement en vacances. Un bel équilibre qui aide la jeune femme à se construire au fil du temps. Carole rencontre l'amour quelques années plus tard. Il s'appelle David, à 20 ans, et son charme ne la laisse pas indifférente. Ils se marient en 2012 et ont deux jolies petites filles. Parallèlement, le jeune homme est plus qu'accepté par l'entourage de sa femme qui le considère très vite comme un membre de la famille. À cette époque, Carole est loin d'imaginer le drame qui l'attend.
Vous formez une très belle famille.
Merci.
Qu'est-ce qu'il entretenait comme relation avec, avec votre famille, avec les autres membres de votre famille, David ?
Une très bonne relation. Il a tout de suite été accepté et puis ça se passait vraiment très très bien. Ouais. On se voyait avec les uns les autres, plus ou moins, mais vraiment...
N'importe quelle famille. Mais et, et vous, quel lien vous aviez avec votre propre famille ?
Bah, pareil, très, très bon rapport. Voilà, on se retrouvait avec les uns les autres. Après, quand il y avait communion, baptême ou anniversaire, on faisait toujours des repas ou des retrouvailles, quoi. Enfin, ça se passait très bien.
Et ce cousin, alors, quel genre d'homme c'était ?
C'est quelqu'un de très réservé, très timide. Il fallait toujours aller vers lui pour avoir un échange. C'est pas lui qui venait, mais à part ça...
En fait, c'est ça qui est complètement fou dans votre histoire. C'est qu'avant le jour J, vous n'avez presque rien à nous raconter de leur relation.
Bah, non, c'est une relation tout à fait normale. Enfin, ils ont travaillé ensemble parce que donc, mon mari avait son entreprise, mon oncle aussi.
Ouais.
Donc, un était maçon, l'autre menuisier, donc ils se complétaient et ils faisaient des chantiers ensemble. Mon cousin travaillait dans l'entreprise de son père, donc ils se côtoyaient quand même régulièrement, quoi. Donc, et jamais il n'y a eu aucun problème, vraiment aucun problème. Et le soir du repas, donc, on était arrivés en premier, lui était chez ses parents aussi arrivé, donc mon mari a pu discuter un peu avec lui, comme ils avaient un terrain de discussion commun,
oui.
le bâtiment. Et ils voulaient...
En début de soirée, ils ont déjà discuté.
Oui, 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 carrément. Avant que les autres arrivent, en fait.
De façon sympathique.
Oui, bah, carrément. Et donc, il avait projet de... Je ne sais plus si c'était de faire construire ou acheter une maison pour la rénover. Donc, mon mari, déjà étant dans le bâtiment et... déjà depuis plusieurs années, il avait de l'expérience et il était de bons conseils. Donc, ils ont échangé tous les deux et il l'a même invité à venir à la maison le jeudi soir suivant pour discuter plus intimement et être plus tranquille, faire des plans, enfin des choses comme ça.
Vous n'avez pas senti quoi que ce soit dans leurs échanges ?
Non, aucunement. Jamais, à un seul moment.
J'imagine que c'est des questions qui tournent en boucle.
Mais j'ai pas de réponse et on ne comprend pas quoi en fait.
Ouais.
On ne comprend pas et on n'a pas de réponse.
Vous ne savez pas s'ils se sont dit
jamais
quelque chose qui aurait pu...
Ah, mais je suis sûre que non.
Rien.
Je suis sûre que non.
Pas une plaisanterie, une remarque qu'il aurait
m'appelé. Bah, une plaisanterie, mon mari était très, très taquin. Mais c'était toujours gentiment.
Bienveillant,
jamais,
ouais.
Oui, bienveillant, jamais méchant, quoi. Donc, vraiment...
Donc, le dîner a commencé et s'est passé... au départ, s'est déroulé tout à fait normal.
Ah oui, oui, sans aucun problème.
Pas d'électricité dans l'air.
Non, non. Il n'a jamais dit, je ne sais pas... Il aurait pu dire bah, « arrête de me taquiner » ou quoi, « ça m'agace » ou quoi, mais non, non.
Absolument.
Absolument pas, j'étais en face de lui. Donc,
en face de votre mari ou de votre cousin ?
De mon cousin et mon mari était à sa droite.
Vos filles étaient là ?
Oui.
Elles avaient quel âge à cet âge-là ?
Léa avait 14 ans et Lison 9 ans.
Vous étiez combien pour ce dîner de...
Une quinzaine de personnes.
Donc l'ambiance était bonne ?
Oui, très bonne.
Qu'est-ce qui a été le déclic pour qu'il se lève et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu, vous ?
Ben moi, j'ai vu le moment où il s'est tourné contre mon mari, mais c'était déjà trop tard, en fait. Parce que rien ne m'a alertée pour pouvoir l'empêcher ou faire quelque chose, quoi. C'était déjà trop tard.
Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais il avait une arme sur lui, en fait ?
Non,
il avait un couteau.
Pris son couteau de table.
Ah, c'est le couteau de table ?
Oui.
Comme ça.
Un couteau à steak, quoi. Donc, le coup a été très violent, parce que pour que ça transperce le thorax, et c'était au mauvais endroit, quoi. Comme on dit, au mauvais endroit, mauvais moment, ou je ne sais plus comment on dit. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. pourquoi lui, pourquoi, enfin, pourquoi, pourquoi.
Comment vous avez réagi, vous?
Bizarrement, j'ai même pas pu réagir. Enfin, c'est tellement un choc. Et puis, tout le monde est venu sur lui, en fait, parce que mon cousin a mis le coup, mais il a continué à vouloir être sur lui. Donc, tout de suite, tout le monde a réagi pour le séparer. Et moi, je suis pas intervenue, en fait. Il y avait déjà énormément de monde. Donc, voilà, j'ai subi, regardez quoi, en fait.
C'est chaos.
Ouais. C'est un choc tellement... on se demande ce qui se passe, on se demande si c'est la réalité, où est-ce qu'on est, quoi. Enfin, c'est tellement incompréhensible et violent.
Vous avez compris à ce moment-là que le coup qu'il lui avait donné pouvait être fatal?
Alors, c'est un peu... mais il s'est vidé de son sang rapidement.
Ouais.
Donc, on a toujours espoir jusqu'à ce qu'on nous dise les mots. Mais ouais.
Qui a appelé les secours?
Une amie qui était dans invitée au repas.
Et le cousin, il se comportait comment alors, cet homme?
Le soir?
Là, juste après, il a été maintenu, c'est ça?
Ouais, par les autres, donc ils l'ont mis dehors et en fait, inerte, quoi.
Il est resté là, il n'a pas tenté de s'échapper?
Non, pas du tout. Pas du tout. Il était avec son père dehors, son père lui parlait, donc je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais il était là.
Il a réalisé ce qu'il avait fait, vous pensez?
Je ne sais rien. Je ne peux pas vous dire.
Et vous étiez donc tous rassemblés à l'intérieur autour de votre,
ouais,
autour de votre
quand,
mari.
Quand les pompiers sont arrivés avec le SAMU, il y a une équipe des pompiers qui ont pris les enfants pour les mettre à part.
Ah, bien sûr.
Dans une pièce, ils s'occupaient, ils ont fait faire des jeux, des choses comme ça. Et puis nous, on a été mis tous dehors, en fait. Et puis voilà, après, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, quoi. Ça a été long, très 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 long.
Ils ont essayé de le réanimer? Marie-Hélène, vous avez été prévenue comment de ce qui était arrivé à votre fils?
Carole nous a appelés. Il était le soir vers minuit.
Oui.
Et puis, elle nous a dit que David était accidenté. Il faut venir.
Je ne savais pas comment leur dire.
Et elle m'a dit, on est sur place, donc le lieu où ils étaient. Et puis, on est parti. Nous y sommes allés. Peut-être intuition féminine, je ne sais pas. Comme Carole avait précisé le lieu où c'était, je t'ai dit, c'est fini.
Vous avez senti que c'était fini pour votre fils?
J'ai dit, c'est pas possible, parce que avec son oncle, et puis enfin, tout le monde, ça se passait bien. Ce soir,
Puis David n'était pas bagarreur?
À un moment, j'ai repensé... En fin de repas, ils sont peut-être montés. Il y en a un qui a fait une remarque sur le travail, monté dans l'échelle, puis tombé, une chute.
Quand on arrive, voilà.
Oui. Il y avait un périmètre.
On voit,
comme dans on n'a pas films, pu approcher, les... voilà.
Quand on voit 15 ou 20 gyrophares bleus qui sont autour de la maison, ça. Voilà.
Vous avez tout de suite demandé pourquoi?
Oui, alors il y avait la police donc présente et. On a demandé, on dit, on ne sait pas, madame, on ne sait pas.
Au début, on n'a rien voulu nous dire.
Voilà, on attendait.
Jusqu'au moment où tu as dit, de toute façon, ça ne sert à rien de...
Voilà.
Ça ne sert à rien d'attendre, il faut nous le dire, et puis c'est tout. C'est...
Dit, vous nous dites, c'est fini. Puis il m'a dit, oui, madame.
Ils n'osaient pas le dire.
Voilà. Mais ils ne vous ont pas expliqué ce qui s'était passé? Parce que Carole vous avait dit qu'il avait été accidenté.
Carole,
vous
l'avons...
On a vu Carole entre-temps, qui nous a dit...
Ah, il y a... Et puis les filles étaient dans le camion des pompiers.
Les petites.
Voilà.
Et ce qui est impensable, c'est de ne pas comprendre.
Voilà.
Voilà.
C'est fou.
Et on n'aura jamais de réponse.
Non, c'est ça.
On n'aura jamais de réponse.
Voilà.
Comment s'est passé Se sont passés les jours qui ont suivi, Carole?
J'étais dans un autre monde, on va dire. J'avais énormément de monde autour de moi, la famille, les amis,
les collègues. Les autres artisans.
Ouais, il y a vraiment un mouvement qui s'est créé énorme.
Ouais, une solidarité.
Ouais.
Et la famille s'est montrée unie autour de
vous. Oui, ouais, ouais. David était. Enfin, c'est pas parce que c'est mon mari, mais vraiment, il était très apprécié.
Ouais.
Donc, il était connu de par son métier, forcément. Et vraiment, il y a eu un élan d'entraide et j'ai été très, très soutenue.
Alors, juste, les parents de ce cousin, c'était votre oncle ?
C'est ma tante, c'est la petite sœur de ma maman.
D'accord. Comment elle s'est comportée ? Comment ils se sont comportés ?
Oh, bah, elle était dévastée, en fait. Elle ne comprenait pas non plus. Et j'avoue que moi, j'ai été complètement ailleurs et je ne sais même pas, en fait.
Est-ce que par ricochet, même inconsciemment, on en veut aux parents, à l'entourage de ce cousin, de ce meurtrier ?
Ouais.
Ouais.
C'est... Ouais, parce que je pense qu'il avait qu'il a toujours un mal-être, quelque part. Il a un mal-être, et parce qu'on ne fait pas ça comme ça pour rien. Enfin...
Vous avez cherché des explications auprès d'eux ?
Non, parce qu'ils sont dans le déni le plus complet. Ils se sont...
C'est-à-dire que la famille a été divisée ?
Oui.
Tout de suite après ?
Non. Mon oncle m'appelait au départ une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Oui. Sauf qu'à un moment donné, moi, je ne pouvais plus recevoir cet appel. Donc, je lui ai demandé d'arrêter.
C'était trop douloureux ?
Ouais. Parce que bon, d'une semaine à l'autre, ça évolue pas si vite que ça. La douleur, elle est présente et longtemps. Donc,
c'est ça qui vous a obsédé, en fait, et qui vous a empêché d'avancer. C'était ce besoin absolu d'avoir des réponses de pourquoi.
Ouais. Et en fait, on avait espoir d'en avoir lors du procès. Oui. Mais on n'a pas eu de réponse.
Marc, vous allez dire ?
Ah ben, de toute façon, il a posé les questions au moment du procès. Je lui ai posé la question, pourquoi tu as fait ça ? Je sais pas.
C'est fou.
Alors que c'est pas...
Ce que vous nous racontez est complètement fou.
C'est pas un inconnu, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est pas un inconnu. Ouais. Quoi. Ouais. Donc,
il a eu lieu combien de temps après le procès ?
3 ans après.
3 ans.
Il s'est adressé à vous ?
Non.
Non.
Et vous êtes adressé à lui ?
Ouais. Oui. Moi, j'étais très, très en colère.
Bien sûr.
Donc, à un moment donné, vu le contexte, comment ça se passait, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la parole. Donc, la présidente du jury a été très gentille et m'a laissé parler. Donc, je me suis adressée à lui, ouais, en lui disant... Parce que les filles ont voulu assister au procès. Donc, elles étaient avec moi. Et je me suis adressée à lui en lui disant « Mais est-ce que tu te rends compte que tu as volé le père de Léa et de Lison ?» Qu'est-ce que tu peux... Je ne sais plus les mots que j'ai employés, mais qu'est-ce que tu peux nous dire ? Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça, quoi ? Et c'était une coquille vide, quoi. Enfin, rien qui... Aucune émotion, rien. Enfin, vide. Et c'est frustrant.
Ouais.
C'est très frustrant et très énervant.
Au procès, sa famille à lui, qui est aussi la vôtre, mais néanmoins ses proches étaient là ?
Oui.
L'ont soutenu ? Donc, il y avait clairement deux clans, en fait.
Ah ben, oui.
Oui. Après, les autres oncles et tantes, cousins, cousines, c'est difficile pour eux, parce qu'ils étaient là pour les deux, on va dire. Enfin,
oui. Vous n'avez jamais eu de confrontation directe avec cette famille ? Il y a un espèce de silence qui s'est installé entre vous.
Un très, très gros silence.
Donc, vous souffrez ?
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me préserve. Et je ne veux pas aller vers eux.
Vous avez de l'espoir, vous, Marie-Hélène, d'avoir des réponses pendant ce procès ?
Oui. On ne l'a pas eu.
Juste savoir pourquoi.
Voilà.
Quelle peine il a eu ?
15 ans.
De réclusion ferme.
Avec 4 ans de soins obligatoires.
Voilà. Comment vous l'avez reçu, ce verdict ?
De toute façon, on sait très bien que ça ne ramènera jamais David.
Ce qu'on espère.
Mais bon, on aurait aimé savoir le pourquoi.
Voilà.
C'est
une question qui restera sans réponse.
Ouais.
Vivre une procédure où une seule et même famille est concernée, avec d'un côté et de l'autre, ça rend les choses encore plus compliquées, parce qu'on peut pas se dire les choses. Tout le monde est gêné, tout le monde est honteux, finalement. Ouais. Du geste commis par l'autre, dont ils ne sont pour rien. Et pour autant, on n'ose même plus regarder ceux qui sont votre famille. Ça déchire absolument tout, quoi.
Florian.
Oui, par rapport au passage à l'acte, ce qui est difficile, bon, vous n'avez pas de réponse, et ça, c'est une souffrance énorme, on le comprend. Mais il y a des criminels qui ont l'information et qui, par pur plaisir, ne la donnent pas. Parce qu'ils sentent que c'est un moyen d'avoir la maîtrise de la situation et ils savent la vérité, ils ne la donnent pas. Et puis, dans certains cas, et dans les expertises, on le voit bien, il y a des passages à l'acte tellement irruptifs comme ça que la personne est elle-même parfois sidérée de ce qui s'est passé et n'a pas les mots pour dire pourquoi elle a fait ça. Alors, en général, il s'est passé quelque chose. Une rancœur accumulée, une jalousie. Mais pourquoi il est passé à l'acte ce jour-là, à ce moment-là, c'est fort possible qu'il ne soit pas capable de dire pourquoi il a fait ça à ce moment-là. C'est fort possible.
Ce qui est terrible, c'est que je me pose la question, mais j'imagine cette famille qui a besoin, pour faire son deuil, on a besoin de parler. On a besoin d'en parler entre nous. Là, ce qui est épouvantable, c'est qu'il n'y a rien à dire, en fait. Il n'y a même pas d'analyse à faire, il n'y a même pas le fil de l'histoire, puisque, en effet, il y a cette gratuité qui fait que ça avorte même les conversations solidaires qu'on peut avoir en soi et thérapeutiques qu'on peut avoir entre soi pour avancer, en fait. On n'a rien à dire, en fait. Donc, pourquoi même en reparler, puisqu'il n'y a rien à dire, en fait.
Il y a toujours à dire, mais il n'y a rien à dire sur pourquoi ça s'est passé, parce qu'effectivement, c'est authentiquement compliqué. Et le défaut de parole, c'est la cause originelle du problème. C'est-à-dire que si la personne avait réussi à exprimer carrément un ressenti, une émotion,
oui,
une anxiété, il n'y aurait pas eu cet acte. Et là, l'enjeu maintenant pour se sortir de cette histoire, c'est de réussir à mettre des mots et d'aller de l'avant malgré tout et de trouver une histoire cohérente à ce qui s'est passé, même si c'est complètement incohérent. Quand on met les pièces comme ça, de façon, le puzzle est dur à quand même à reconstruire, c'est sûr.
Oui. Comment vous... Vous vivez avec ce pourquoi, vous, Carole ? Comment on fait pour avancer avec ce point d'interrogation auquel vous êtes condamnée, vous aussi ?
On vit avec. Aujourd'hui, je me sens apaisée. Parce que j'ai fait un gros travail.
Ouais.
Donc, j'ai décidé de ne pas me pourrir la vie.
Oui, non, j'entends.
Pour lui.
Oui. Voilà. Il fallait avancer, vous.
Ouais.
Est-ce que vous nourrissez toujours l'espoir ? Ce n'est pas la même chose, évidemment, pour des parents. Le regard est complètement différent.
Chacun a sa peine.
Est-ce que vous nourrissez encore l'espoir qu'un jour, il décide de parler ?
Non.
Non ?
Non. Non, j'y crois pas.
Non, je ne crois pas.
Non, moi non.
Vous attendez plus ? Et alors, vous, comment vous vivez avec cette interrogation qui restera comme telle ?
Ben, on survit.
Oui.
Après, c'est comme tout parent qui perd un enfant. Hein ? La douleur, elle est à vie. Et bon, on a l'amour de nos petites filles, de Carole, et on est restés unis.
Comment vont vos filles ?
Bien.
Parce que ce qui est incompréhensible pour nous doit l'être encore plus pour des petites filles.
Oui. Non, elles vont bien. Elles sont fortes. C'est des chouettes filles.
Fortes comme leur mère.
Comment ?
Elles sont fortes comme leur mère.
Je suis fière d'elles.
Ça vous a vraiment unis aussi. Hein. Parce que ça aurait pu vous diviser, vous aussi.
Oui,
hein.
Tout à fait. On était déjà unis, mais oui, moi, je ne voulais pas perdre le lien, ça, c'est sûr. Nous non plus.
Et
ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Hein.
Ouais.
Pour les fêtes de fin d'année ou autres,
ouais.
On est toujours
ensemble.
Enfin,
ensemble.
Et ouais. C'est très important pour nous.
Bien sûr.
Oui.
Comment, vous aviez une question à poser à Marc, je crois.
Oui.
Ou à Florian.
Oui. Donc là, ça fait un peu plus de 7 ans qu'il est en prison.
Un peu plus de 7 ans.
Ouais.
Oui.
Donc il a pris 15 ans. Qui va sortir avant les 15 ans.
C'est une possibilité.
On prend soin des détenus quand ils vont sortir. Ils deviennent limite victimes. Et nous, depuis 7 ans, personne ne s'est inquiété de nous. Non. De savoir si on vivait correctement, si les filles avaient ce qu'il fallait. Enfin, c'est hyper injuste, encore une fois. C'est très énervant.
C'est en fait toute la structure d'un procès pénal en France. Au départ, le procès pénal en France, il oppose la société avec quelqu'un qui a commis un crime. Et ce n'est que, je ne vais pas refaire l'histoire du droit, mais ce n'est que tardivement que la partie civile, c'est-à-dire la victime ou les survivants, les ayants droit, ont eu finalement un droit de cité dans le procès. Mais quelque part, on se rend compte qu'ils sont toujours un peu à part. Après, le problème de la prise en compte et de la prise en charge de l'accusé condamné qui est en détention, c'est parce que la philosophie de la détention en France, c'est de se dire on va rendre la personne meilleure pour pouvoir la réintégrer dans la société. Donc il y a tout un panel effectivement de choses qui sont mises en place pour l'assister et faire en sorte que peut-être il aille mieux. Par contre, il n'y a pas en France de soutien aux victimes. Il faut dire les choses comme elles sont.
Il n'y a pas de prise en charge. Vos enfants n'ont pas été pris en charge. On n'a pas eu.
En fait,
vous n'avez pas
passe,
eu
si
des séances de psy payées.
C'est moi qui les ai mises en place.
Voilà. Ce qui se passe, Faustine, c'est que au procès pénal, la partie civile, c'est-à-dire les victimes, ont le droit de dire. Oui. Nous, ça nous cause un préjudice et on en demande réparation. Et la justice considère qu'en allouant une somme aux victimes, elle couvre l'intégralité de leurs besoins. Ce qui est évidemment un non-sens parce qu'on ne peut pas. Et puis, on n'a pas besoin d'argent à ce moment-là. On a besoin de soutien, on a besoin de regard, on a besoin d'une main tendue, on a besoin d'une compréhension. Or, ces gens-là, comme la plupart des victimes, se sentent complètement exclus de ce qui les a occupés au premier chef.
Ma question est absurde, mais comme on parle d'indemnité, même si ce terme est épouvantable quand on parle du deuil de son époux ou de son enfant, néanmoins, comme là, on est dans le cœur d'une même, au cœur d'une même famille. Est-ce que la famille, on va dire l'entourage proche de ce cousin, a été amené à vous payer des indemnités ou à prendre en charge, je ne sais pas comment ça se passe.
Non, en fait...
À prendre en charge ne serait-ce que les soins thérapeutiques de cette famille.
La responsabilité pénale, elle est exclusive, c'est-à-dire elle est sur la personne qui a commis les faits.
D'accord, c'est ce que je
Et la famille n'est pas concernée. Le seul cas de figure, c'est quand l'accusé est mineur, à ce moment-là, ses parents sont civilement responsables et doivent faire face aux dommages et intérêts. Mais en dehors de ce cas de figure-là, en aucun cas. Et d'ailleurs, quelque part, c'est logique. Ce n'est pas parce que vous avez un membre de votre famille qui commet l'irréparable que vous devez, vous, être amené à...
Mais il y a quand même des dommages et intérêts.
Oui, mais qui n'ont rien à voir avec l'importance du préjudice.
Bien sûr, non, mais j'entends. Justement, c'était pour demander quel rapport on a avec cet argent aussi.
Si on rentre dans ce débat-là, nos téléspectateurs vont avoir la nausée. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix d'une vie en France, c'est entre 20 et 40 000 euros. Vous perdez un enfant, vous perdez une sœur, eh bien, on vous allouera des dommages et intérêts qui sont entre 20 et 40 000.
Et c'est insupportable. Jenny, c'est un tout autre drame qui a secoué votre famille. Il y a 7 ans, c'est encore récent, vous êtes libérée d'un lourd fardeau qui a eu l'effet d'une bombe auprès de vos proches. Qu'est-ce que vous avez révélé, Jenny, à votre famille?
On m'a amenée, on m'a encouragée à révéler que j'avais été violée par le frère de ma mère de l'âge de 13 à 18 ans.
Comment a réagi votre famille?
Donc au départ, même encore maintenant, tout le monde a été très, très gentil, très à l'écoute, toute ma famille. Ils ont été présents tout au long des 5 ans. Il y a eu 5 ans de procédure. Le procès, où là aussi j'ai été vraiment très entourée par tout le monde.
Dont Justine, qui est à vos côtés. Justine, vous êtes la cousine de Jenny. Depuis le début, vous lui tenez la main et vous êtes très, très, très proches et très complices toutes les deux. D'ailleurs, on va découvrir quelques images qui retracent votre fusion entre cousines.
Fille unique, Jenny grandit en région parisienne. À la suite du divorce de ses parents à l'âge de 5 ans, la petite fille est élevée seule par son père. Mais elle est bien entourée par sa famille maternelle. Justine, elle, grandit à seulement quelques kilomètres de sa cousine. Et malgré leurs 3 années d'écart, les deux jeunes filles sont très complices et ont une relation privilégiée. Les cousines se retrouvent chez leur grand-mère chaque week-end et partent même en vacances ensemble. Mais derrière cette enfance insouciante, Jenny fait d'étranges confidences à Justine.
C'était quoi ces confidences alors?
Alors j'avais 11 ans, on était chez mes parents dans ma chambre et puis il y avait une autre de notre cousine avec qui on était proche à ce moment-là. Et puis Jenny me dit, écoute Juju, il faut que je te dise un secret, mais tu vas me faire la promesse de ne pas en parler. Et elle m'a avoué avoir eu une relation sexuelle donc avec notre oncle.
Mais, vous avez compris ce que ça
non.
voulait dire
enfin, la relation sexuelle, oui,
bien sûr.
Mais ce qui se cachait derrière, non. À 11 ans, j'ai pas compris. J'ai pas compris et puis malgré ce qu'elle devait ressentir, on est resté dans notre insouciance. Voilà, on était toutes les 3 jeunes filles. Bon, on a continué de jouer. Voilà, c'est, de ce que je me souviens, ça a été une confidence de 2 minutes. Voilà, on le dit et puis on oublie.
Vous vous souvenez de ce jour-là, Jenny? C'était un appel au secours?
Je ne sais pas si c'était un appel au secours, en fait. Peut-être. En y réfléchissant, peut-être.
Ouais.
Mais d'un autre côté, je ne vais pas me poser la question. Je ne préfère pas. Parce que je pense que déjà, ils culpabilisent assez. Tous. Et Justine aussi. Donc, je n'ai pas envie de me dire est-ce que c'est un appel au secours? Est-ce que je t'ai dit ça pour que tu dises quelque chose?
Ouais.
Non.
Pourquoi vous êtes émue à ce moment-là quand on parle de culpabilité? Parce que c'est ce qui vous hante, mais vous culpabilisez de quoi, Justine?
De ne pas avoir compris.
Et vous aviez 11 ans. Qu'est-ce que je lui ai comprendre quoi?
C'est ce que je leur dis, c'est ce que je dis à tout le monde. Ils n'ont pas à culpabiliser, ce n'est pas eux les coupables. Le coupable, aujourd'hui, il a été jugé. Voilà. Donc, c'est pour ça, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui aurait pu être fait, dit,
bien sûr,
on n'en parle pas.
Et à quel moment vous avez compris, alors, ce qu'elle avait voulu dire ce jour-là?
Au moment où, j'ai été interrogée à la gendarmerie. Parce que c'est vrai que pendant toute notre adolescence, début de vie d'adulte, on en a parlé, mais pas... Voilà, il aurait fallu que je lise encore entre les lignes et je n'ai pas su faire. Et c'est quand j'ai dû aller témoigner à la gendarmerie et que le brigadier a fini par me dire « Mais de toute façon, là, dans le dossier, j'ai ça relate 50 faits de viol. » Et là, c'était dur. Ça a été dur parce que...
Le chiffre, hein, quoi, le chiffre.
Le chiffre et puis le terme de viol qui a été entamé, enfin, ouais, prononcé du coup.
Et vous étiez plus âgée, vous saviez ce que ça représente. Voilà.
Et je me souviens être sortie et avoir appelé Jenny pour m'excuser parce que si j'avais su parler, même sans comprendre ce qui se passait, si au moins j'avais pas tenu cette promesse de dire je dirais rien.
C'est fou cette culpabilité que vous portez sur vos épaules. C'est une manière de garder le lien aussi avec ce drame, de montrer son empathie à l'autre, de sentir cette culpabilité.
Effectivement, il y a beaucoup de ça, et puis c'est proportionnel au poids que ça représente d'avoir un tel secret qu'on a dû porter. Et finalement, effectivement, ce qui est difficile, c'est la lecture qu'on fait des faits une fois qu'on est adulte et qu'on a tout le décodage de ce qui s'est passé. Mais à 11 ans, c'était bien lourd à porter déjà.
Ouais.
Et le seul moyen, c'était de repasser rapidement à autre chose et de repasser au jeu et à la légèreté du moment. Et c'était très difficile de faire autrement. Quoi.
Marc ?
En matière d'inceste, puisqu'on est en termes d'inceste, là, c'est une relation incestueuse au sein d'une même famille, c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire que si, a posteriori, une fois qu'on sait, on refait le film de ce que l'on a vécu, tout le monde est coupable. Tout le monde se sent coupable. Mais c'est parce que vous savez, au moment où ça se passe, vous ne saviez pas. Donc, il ne faut pas se mettre, en quelque sorte, à cet instant-là pour réfléchir. Parce que sinon, oui... On se met à se dire « Ah oui, mais là, je l'ai vue, en fait, elle s'enfermait avec lui, pourquoi ?» etc., etc. On peut tous faire ça, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'encore une fois, au moment où vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut quand même se rappeler que c'est penser l'impensable.
Oui.
Qui imagine que dans une famille, un oncle va violer sa nièce? Personne. Mmh. Personne.
Comment ça avait commencé pour vous, Jenny? Vous aviez quel âge?
13 ans.
Comment il avait commencé à s'attaquer à vous?
On est parti un week-end à la montagne, le week-end de l'Ascension. Mes parents m'ont confié à lui parce qu'ils n'ont pas pu venir.
Vous aviez des bonnes relations avec lui?
Oui, très bonnes. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit.
C'était le frère de qui, en fait?
De ma mère.
D'accord.
Jamais eu de geste déplacé envers moi, jamais de parole déplacée. Enfin,
vous entendiez très bien.
Vraiment, rien. Donc, je suis partie très sereine pour ce week-end. On était une quinzaine avec donc d'autres membres de ma famille. Et donc, quand on est arrivé, c'est là où le premier jour, il m'a pris ma main et l'a mis sur son sexe. Et ensuite, ça a été à répétition, les attouchements, etc.
Vous avez compris sur le moment que c'était mal?
Enfin, que c'était mal, oui, mais je n'étais pas en mesure de réfléchir. J'étais vraiment complètement dans un...
Tétanisé, sidéré.
Ouais, dans un autre monde, c'était pas possible.
Enfin... C'était quel genre d'homme? Il était impressionnant?
Je dirais pas impressionnant, mais toujours bout en train, toujours à aider tout le monde.
Prenez de la place.
Ouais. Beaucoup.
Il vous a menacé ?
Non.
Est-ce que vous, vous êtes tout de suite investi de cette mission de ne pas briser cette famille ? Est-ce que vous n'avez pas parlé de peur de briser la famille ?
Surtout pour ça. Parce que ma famille était très, vraiment très unie. Et lui, c'était vraiment le charisme de la famille.
Pendant combien de temps ça a duré ? Donc déjà pendant le séjour, il n'a pas arrêté ?
Mm-hmm. Ensuite, donc ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps, des mois. Il y a eu les viols qui sont arrivés à partir d'octobre 2015.
Mais dans quelles circonstances ?
98, pardon.
Pardon, Jenny, mais dans quelles circonstances vous arriviez à vous retrouver ? Comment il se retrouvait seul avec vous ?
Eh bien, j'étais chez ma grand-mère tous les mercredis. Et lui, il faisait du foot à côté dans le même village. Donc, il venait et il me disait, tu me rejoins à tel endroit. Et donc, moi, de peur, j'obéissais.
Il vous faisait peur ?
Pas physiquement, mais psychologiquement, oui.
Vous étiez sous emprise ?
Oui, je pense.
Oui. Mmh. Quel genre d'adolescente vous êtes devenue face à ce que vous viviez ?
Plutôt renfermé, garçon manqué, pour pas attirer l'attention vers moi.
Et vous vous êtes confié à personne ?
Non, à part mes deux cousines. Je leur ai dit, mais c'était... Fin...
Oui, mais vraiment, vos cousines qui étaient encore petites, oui. Mais qui n'avaient pas encore mesuré c'est la ça. Gravité, à part, et puis c'était au début, en fait, quand oui. Vous en avez parlé à Justine, de la récurrence, de la gravité, jusqu'où ça allait, vous n'en avez parlé à personne ?
Non, personne.
Vous aviez envie ou vous aviez honte ?
Non, j'avais pas envie.
Vous aviez peur. Pourquoi vous aviez pas envie ?
J'avais peur, j'avais honte. Et je culpabilisais aussi, quand même.
Culpabiliser de quoi ?
Parce que je me dis, peut-être que s'il me fait ça à moi, c'est moi le problème, c'est ma faute.
Oui, je l'ai cherché, quoi.
Oui. Donc, j'ai rien dit.
Personne n'a soupçonné ?
Après coup, oui. Il y en a qui m'ont dit, effectivement, il avait un comportement étrange. Mais pas à ce point-là. Personne n'a rien vu.
Il avait quel âge par rapport à vous ?
Il a 25 ans de plus.
Oui, c'est ça à peu près. Ouais.
22, 23 ans.
Et il avait des enfants, lui, une vie, une famille ?
Il a un fils.
Du même âge que vous ?
Un peu plus jeune, il a 6 ans de moins que moi.
Et il avait une compagne ?
Oui.
Qui se rendait compte de rien ?
Sa compagne, au bout de 2 ans, a participé au fait avec lui.
Comment ça participer ? Pardon, mais comment ça participer ? C'est-à-dire qu'elle fermait les yeux, elle savait, elle vous trouvait des lieux ?
Ils m'ont demandé de venir dormir chez eux. Mes parents ont accepté, puisque pour eux, il n'y avait aucune raison de ne pas me laisser y aller. Et mon oncle m'a appelé, me disant, Jenny, tu viens. Et elle était là. Et il m'a violée devant elle. Ils ont eu un rapport sexuel devant moi.
Quel cauchemar.
Et ça s'est produit 2 fois. Et un jour, elle l'a surpris me faire des attouchements. Et là, elle a pété un plomb, elle est partie. Elle m'a insultée de briseuse de couple. J'avais 15 ans, à cet âge-là.
Mon Dieu.
Tous les noms d'oiseaux. Que j'étais une aguicheuse, que je ne me rendais pas compte de faire ça à son oncle, puis un adulte. Enfin, voilà, je m'en suis pris plein la tête. Et du coup, le fait d'entendre ça, ça m'a complètement renfermée sur moi-même. Et forcément, je n'ai parlé à personne, puisque là, c'était vraiment de ma faute.
Ah, c'est le coup de grâce.
En fait, il y a vraiment tout le tableau de ce qu'on trouve dans les relations incestueuses. D'abord, il faut mesurer le poids que représente pour un enfant l'idée de faire souffrir ses parents. Vous imaginez qu'en fait, elle allait dénoncer le frère de sa mère, c'est-à-dire tuer sa mère, en gros, si elle parlait. C'est pour ça qu'elle s'est enfermée dans le silence. Et derrière ça, il y a le comportement de tous ces gens qui entourent cet oncle, dont sa compagne, qui à la fois participe activement à des ébats sexuels où vous êtes, donc elle est au courant, et qui ensuite va lui la charger d'un poids de culpabilité absolument incroyable. Vous avez vu comment on inverse les choses ? Tu te rends compte, tu fais ça à un adulte. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est tu te rends compte, tu as fait ça à un enfant.
Mais est-ce que c'était à dessein ou est-ce qu'elle était vraiment dans son propre délire ? Ou est-ce que vraiment elle voulait culpabiliser ?
Il y avait peut-être aussi une manière quelque part de se déculpabiliser elle en l'incriminant. Voyez ?
Est-ce qu'on est dans l'ordre d'un conflit de loyauté aussi quand on se retrouve dans cette situation-là ?
Alors, on fait croire aux victimes qu'il y a un conflit de loyauté et dans tous les systèmes d'emprise, c'est-à-dire que l'individu répond à ses pulsions, mais il sait très bien que c'est illicite. Donc, il est obligé, lui, de se faire l'histoire que finalement, c'est l'autre qui aguiche et qu'elle est consentante. Comme ça, ça le déculpabilise. Et puis, pour la personne qui en est victime, il ne faut pas qu'elle parle, parce que si elle parle, effectivement, la justice va y regarder de plus près. Donc, il y a de la menace permanente, de l'emprise qui fait qu'on est, tenu par le secret.
Quel a été le déclic qui vous a poussé à parler, Jenny ?
Alors, je ne sais pas si c'est un déclic vraiment précis. Je devais me marier avec... Enfin, je me suis mariée avec mon ex-mari en 2016. Mmh. Et donc, ma mère s'est mariée le même jour que moi. Mmh. Et mon oncle, là, était invité, puisqu'on avait prévu ça en 2015, avant que je parle.
D'accord.
Et du coup, le fait peut-être de savoir que cet oncle serait présent à mon mariage, déjà, c'est
insupportable.
Je ne pourrais pas le consentir comme ça. Et puis, il y a ma tante qui m'a parlé de lui. Elle a dû ressentir quelque chose dans mes mots, je ne sais pas. Et elle m'a posé la question directement, est-ce qu'il t'a déjà fait quelque chose ?
Et là, vous lui avez répondu ?
Et là, je n'ai pas répondu tout de suite. Il y a eu un gros blanc, Et là, elle m'a reposé la question une seconde fois avec insistance et j'ai lâché.
Comment elle a réagi ?
Elle était effarée. Enfin, j'ai pas tout lâché tout de suite. J'ai parlé d'attouchement le jour même et j'ai attendu le lendemain pour tout révéler, pour révéler le reste.
Est-ce que les réactions de votre entourage ont été à la hauteur de ce que vous attendiez ?
Oui.
Votre mère ?
J'étais pas là quand on lui a annoncé. Personne n'était capable de lui dire. Donc, c'est la brigade criminelle qui l'a informée. Donc, mon oncle l'a emmenée jusqu'à là-bas. Et c'est eux qui lui ont annoncé.
Qui vous a poussé à porter plainte ? Vous l'avez fait toute seule ?
Mon oncle, à qui j'avais parlé, m'a dit « Écoute, c'est ton choix, mais moi, je te dirais de... » De ne pas laisser ça là.
Vous avez été bien reçue ?
Très bien, mais le premier jour, ça a été très compliqué.
De revenir sur tout ça ?
Quand vous entendez des mots procureur de la République, des choses qui sont complètement...
C'est impressionnant.
Oui, c'est très impressionnant. J'avais qu'une envie, c'était d'en aller en courant et de partir.
Pourquoi ? Parce que ça vous faisait peur ? Vous aviez l'impression d'être coupable aussi ?
Ça me faisait peur parce que je me suis dit, là, je suis en train de tout éclater. Enfin... Ma cellule familiale.
Je veux dire quelque chose à propos du tout éclaté des enfants. C'est pas vous qui éclatez la famille en parlant, c'est lui en faisant ce qu'il a fait qui a fait exploser cette famille.
Mais ça, on le comprend.
Et il faudrait que tous les enfants, à qui malheureusement ça peut arriver, comprennent bien ça. Il ne casse rien, c'est cassé déjà. C'est cassé par lui et par ce qu'il a fait.
Oui, mais le fait de le dire ouvertement et puis de mettre des mots, je comprends que mettre des termes juridiques d'un coup, ça puisse être vertigineux en fait.
Alors, il y a le vertige des mots et des procédures qu'on ne comprend pas très bien et dont on a entendu parler. Et puis, il y a aussi le fait que de s'exprimer, certes, c'est un soulagement, mais c'est aussi le revivre. Et dans le détail, parce que l'enquête a besoin d'être particulièrement précise dans les faits et on doit, bien sûr, tout raconter. Et ça, c'est aussi une des grandes réserves qu'ont les victimes. C'est que c'est une souffrance supplémentaire. En tout cas, c'est perçu comme une souffrance supplémentaire immédiate.
Est-ce que vous vous en êtes voulu à vous, même s'il n'y a aucune raison, mais est-ce que vous en êtes voulu à vous, Jenny ?
Au départ, oui. Au départ, mais après, avec le temps, j'ai appris à en faire une force. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune culpabilité.
Il a été arrêté tout de suite ?
Non.
Combien ? Ah bon ?
Non. Il a fallu le temps de... vu que c'était des faits anciens, oui. Il a fallu interroger, beaucoup de monde sont passés par la gendarmerie, il y a eu des dizaines de témoignages. Et une fois qu'ils avaient tous les éléments en main pour être vraiment sûrs que ce que je racontais était vrai.
Et ça a duré combien de temps, ce temps d'investigation?
Ah, ça a duré novembre, décembre, 3 mois.
Il y a eu d'autres victimes?
Oui.
Et pendant ces 3 mois, comment se comportait la famille, en fait?
Bah, pendant ces 3 mois, moi, je le croisais aussi sur la route.
Vous le croisiez, lui, sur la route?
Oui. Il avait interdiction de m'approcher, mais il n'avait pas interdiction de se promener là où il voulait.
Et il y avait d'autres victimes dans la même famille?
Alors, on a su qu'il y avait la fille de sa compagne, à l'âge de 15 ans, oui, qui a été victime.
Il n'y a pas eu de solidarité entre vous?
Si. Si, si, elle est venue au procès, elle était de mon côté, sans problème.
Est-ce que la famille, tout d'un coup, se met en... Il y a un stop, quoi. Plus personne ne se voit, plus personne ne se parle. Non?
Non. Justement, quand ma mère l'a appris en décembre 2015, toutes mes tantes sont venues, mes oncles, tout le monde est venu pour justement la soutenir.
Oui.
Ils ont mangé ensemble, etc.
Ah, ça, c'est bien, oui. Ça a été... oui. Qu'est-ce qu'il a eu comme peine? De quelle peine il a écopé?
Il a eu 13 ans ferme et 7 ans de suivi socio-judiciaire.
Et elle?
Elle, 5 ans, mais en peine aménagée. Donc, elle est restée un mois et demi en prison. Et là, elle est sortie avec un bracelet électronique. Parce qu'elle a avoué, lui, non.
Lui, il a nié les faits. Alors,
non, il ne les a pas niés, il les a arrangés à sa vision.
C'est elle qui m'a provoqué, je n'ai pas pu résister.
On était amoureux. Voilà.
Ah, il a vécu une histoire d'amour. Ouais.
Voilà. Ce que je voudrais vous dire par rapport à l'enquête qui a duré 3 mois, ce n'est pas pour s'assurer que vous dites la vérité. Il faut bien comprendre que quand on accuse quelqu'un, il faut recueillir des preuves contre lui. Votre parole, même si elle est essentielle, n'est pas suffisante. C'est pour ça que dans un premier temps, on fait l'entourage pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres victimes ou s'il y a des personnes auprès desquelles vous vous seriez confié. Ça permet en quelque sorte de conforter votre parole et faire en sorte, une fois qu'on l'a placé en garde à vue, d'avoir des billes contre lui. Vous comprenez? Et c'est pour ça. Donc ne croyez pas que la justice a en quelque sorte mis 3 mois à vous croire. Si elle ne vous avait pas cru, elle n'aurait pas fait ça.
Il n'est pas allé en prison au bout de 3 mois. Hein. Non. Il a été en prison qu'en 2021, au moment du procès.
Oui, mais parce que...
Des années plus tard.
Parce qu'étant présumé innocent, même si c'est insupportable ce terme à entendre pour des victimes, étant présumé innocent et à partir du moment où le juge d'instruction considère qu'il n'est pas nécessaire de le placer en détention pour la poursuite de ses investigations, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un...
Même si on est présumé innocent, il peut aussi empêcher qu'il y ait d'autres victimes pendant ce temps-là.
Ils ont, alors, j'ai pas eu accès au dossier, mais ils ont dû considérer qu'il n'avait pas un caractère de dangerosité suffisante pour être incarcéré, surtout qu'il a servi la soupe habituelle de la relation amoureuse dont il n'a pas pu se défaire et qu'il a quelque part submergé par ses sentiments, parce que j'entends ça assez régulièrement. Donc du coup, après, vous savez, c'est un peu la loterie nationale, la justice. Il y a des juges d'instruction qui auraient placé en détention immédiatement, il y en a d'autres qui ne le font pas. Mais ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé au procès, qu'il y ait une détention provisoire ou pas, importe peu sur l'issue du procès. Voilà.
J'ai une question, Florian. Est-ce que, on va revenir sur ce que ça a provoqué chez vous, ce procès, de quelle manière ça vous a fait avancer ou non, mais sur l'inceste plus globalement, est-ce que le fait qu'on s'attaque à, en effet, sa nièce, c'est parce que l'enfant est à portée de main et dans la cellule, juste à proximité? Ou est-ce que le fait qu'il y ait ce rapport familial rajoute à la perversion de cet acte et excite encore plus le prédateur?
Alors, c'est difficile à dire. En tout cas, ça rajoute à la gravité. Là où c'est compliqué de répondre, c'est que, les ingrédients et le huis clos sont réunis pour que la perversion s'exprime et qu'il y ait une emprise encore plus forte que quelqu'un qui serait de l'extérieur et qui pourrait en parler plus facilement à sa famille. Donc, d'un point de vue des faits, ça, c'est un facteur aggravant, puisqu'il y a un lien d'emprise, un lien familial. Après, est-ce que c'est parce que c'est familial que le pervers passe à l'acte? C'est plus difficile à dire.
En fait, en matière d'inceste, il n'y a pas un inceste unique. Il y a des gens qui commettent des faits au sein de leur propre famille, mais pas pour les mêmes raisons. Vous avez effectivement l'homme qui est incapable de faire la distinction avec la différence d'âge et qui va effectivement se sentir tombé amoureux d'un jeune enfant qui est au sein de sa famille. Ce que je comprends de ce que vous nous dites, lui, c'est un opportuniste. C'est-à-dire, effectivement, comme vous le suggériez, c'est tout ce qui est dans l'entourage qui correspond à ces stimuli sexuels, eh bien, ils vont être ses victimes. La fille de sa compagne et vous, exactement au même âge ou à peu près au même âge. Donc là, on se rend compte que c'est plus de cet ordre-là. Mais c'est très pluriel, en fait, les comportements incestueux.
Comment vous avez vécu ce procès où, justement, votre intimité a été dévoilée? C'est-à-dire que, bien sûr, on a l'idée de faire condamner le criminel, mais vous aussi, vous vous retrouvez...
Je pense que c'est plus mon entourage qui était gêné que moi, à mon avis, d'entendre tout ça. Moi, je l'ai raconté et re-raconté à nombreuses reprises.
D'ailleurs, vous l'avez écrit, hein, « Prisonné, libéré », un voilà. Livre aussi autobiographique que vous avez écrit. Oui.
Ça m'a permis de m'échapper...
C'est-à-dire que vous aviez un certain temps de détachement. Vous aviez réussi à installer un détachement.
Pendant la procédure, du coup, j'ai eu le temps de prendre du recul par rapport à tout ça.
Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit des choses pendant ce procès? Il vous a parlé?
Tout. Il a eu un comportement odieux.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que il était assis, il a regardé le mur pendant 3 jours. Il est resté sur sa position, il a regardé personne. Odieux, il a agacé les juges par son comportement.
Vous attendiez des excuses? Vous aviez envie de l'entendre ou vous en fichiez?
J'attendais des réponses. Pourquoi?
Pourquoi moi?
Alors, ça m'interpelle toujours quand on demande pourquoi dans votre cas, plus précisément, moins évidemment dans le vôtre, mais dans votre cas, parce que quelle explication on peut donner à une perversion sexuelle, à une folie sexuelle? Qu'est-ce que vous cherchez derrière ce pourquoi? Pourquoi vous?
Non, peut-être pas pourquoi moi, mais au moins qui s'exprime.
Oui.
Qui dit ce qui s'est passé. Là, il est resté sur sa position, on était amoureux. Enfin, j'ai entendu ça pendant trois jours.
Ah, c'est ce qu'il disait?
Oui, donc moi, ce que j'avais pas besoin d'entendre ça. Ce que je voulais entendre, c'était ce que j'ai fait, je n'aurais pas dû le faire.
Qui reconnaissent la gravité des faits, en fait, c'est ça qui est très.
Et donc la victime.
Mais ça, c'est de mauvais pronostics par rapport à la réhabilitation, c'est-à-dire
pour lui,
un individu qui est pas capable, compte tenu des preuves qui lui sont mis devant les yeux, qui est pas capable de dire non, c'était quelque chose que je n'aurais pas dû faire, ou qui est pas capable de dire j'ai pas pu résister à des pulsions, qui n'excuse pas mais qui permettent un peu de comprendre, pour après aller dans du suivi socio-judiciaire et une aide thérapeutique, c'est pas évident.
Vous avez témoigné, vous, Justine, à ce procès?
Oui.
C'était important?
Oui, parce que moi, quand Jenny a décidé d'aller porter plainte, je lui ai dit écoute, quoi qu'il arrive, je serai là. Tu m'as demandé il y a quelques temps de rien dire. Maintenant, tu veux faire le contraire. Je serai là. Et donc, du coup, ouais, j'ai été appelée à la barre.
Il n'avait jamais rien tenté avec vous, cet homme-là?
Je ne peux pas dire si c'était une tentative ou pas, parce que c'est vrai qu'on était une famille. Oncle et tante, nous, neveux et nièces, on allait dormir à droite, à gauche. Il y a eu une fois dans la voiture où il m'a dit... embrasse-moi, mais est-ce que c'était un bisou d'une nièce à un nom? Enfin, moi, j'étais déjà au courant de ce qui s'était passé avec Jenny.
Oui, donc ça avait une résonance en vous.
Forcément, au fond de moi, je dis, non, tonton, non. Et puis, ça n'a pas été plus loin, il n'a jamais été insistant ou quoi. Je ne peux pas dire si c'est une tentative.
Est-ce que... comment vous êtes reconstruite, vous, Jenny? Est-ce que vous êtes aujourd'hui guérie de cette histoire épouvantable?
Le livre, je vous dis, c'était pour moi me vider de tout ce que je ressentais pendant tout le temps de la procédure jusqu'au procès. Je me suis remis beaucoup en question par rapport à ma vie personnelle. J'ai 2 garçons, j'étais mariée, et quand j'ai vu ce que ça donnait niveau soutien moral, psychologique, etc. Du coup, j'ai tout laissé tomber, j'ai divorcé, je suis partie et j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus compréhensif et qui m'épaule.
Ce n'est pas la première fois que j'entends qu'un conjoint ou une compagne, d'ailleurs, ne supporte pas d'apprendre qu'il y a eu un tel drame au niveau de sa sexualité auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si compliqué parfois à soutenir l'autre?
Alors, pour certains hommes, parce que c'est souvent les femmes qui sont quand même victimes, c'est beaucoup le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'ils reçoivent ça et ils se sentent démunis. Et un homme qui n'a pas de solution peut être en grande difficulté. Et donc, ne plus en parler parce que c'est plus simple finalement de ne pas en parler que d'accompagner. Et puis, des fois, c'est un peu plus... c'est des mécanismes un peu plus frustres qui ont à voir avec les fractions corporelles, la sexualité et toute la dégradation que ça peut représenter.
Aujourd'hui, vous allez comment ?
Bien.
Il a fallu du temps pour répondre bien ?
Oui, bien. Je suis vraiment satisfaite de tout. Enfin, toute la procédure, la peine, etc. La sanction me...
Vous convient.
Me convient parfaitement.
Il a essayé de rentrer en contact avec vous depuis ?
Non.
Et vous, vous avez pu lui dire ce que vous aviez sur le cœur ?
Non. Il m'a juste demandé pendant le process s'il pouvait me demander pardon. Je lui ai dit non.
On était amoureux et je te demande pardon.
Ouais.
Tout le paradoxe de l'histoire.
Et vous, Justine, est-ce que vous êtes en paix par rapport à cette histoire ?
Non. Je pense que je m'en voudrais toujours. Mais bon, là, d'entendre qu'elle va bien, ça me fait du bien.
Vous en parlez beaucoup toutes les deux ?
Non, plus non. Plus maintenant.
Et est-ce qu'en reparler, ça fait du bien ? De se dire en tout cas qu'on va mieux ?
Je pense que pendant 5 ans et demi, on en a pas mal parlé.
On en a parlé, ouais.
Et donc, voilà, quand on se voit, on ne parle pas de ça. Non.
Et dans la famille, aujourd'hui, il y a une sérénité retrouvée ?
Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent, qui ne devraient pas. Mes parents, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Ils culpabilisent, c'est sûr.
Et vous, vous culpabilisez de les voir culpabiliser ?
Je ne culpabilise pas, mais j'essaie de leur expliquer que c'est... le seul coupable est en prison et que ce n'est pas à eux de culpabiliser. Mais je pense que ils s'en voudront toujours, malheureusement. Je me mets à leur place.
Merci beaucoup pour votre courage, en tout cas. Merci à tous pour votre courage et pour la sensibilité dont vous avez fait preuve pour nous parler de sentiments aussi intimes. Merci pour votre confiance, vraiment. Merci Florian, merci Marc de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité. Je sais que ces émissions circulent beaucoup dans les réseaux sociaux, notamment auprès des plus jeunes. Continuez à le faire et n'oubliez pas que ces émissions sont disponibles en intégralité sur les plateformes de France Télévisions. Voilà, je vous embrasse. Passez une belle après-midi. On se retrouve demain.
Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre ado souffre d'une grave dépression et vous ne savez plus comment lui venir en aide. Après un long passage à vide, votre enfant a réussi à sortir de son mal-être. Il est désormais un jeune adulte épanoui. Pour une autre émission, vous avez détesté être enceinte et avez cumulé tous les désagréments qu'une grossesse peut impliquer. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
J'encourage toutes les femmes déjà qui ont subi l'inceste, même des années après, à parler toujours. Il y a toujours une solution, enfin toujours une issue. Hein, j'en suis l'exemple.
Ça fait un bien fou et ça porte et ça aide à avancer.
Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.